Je vais laisser la parole à présent à Rabah Abdelkafi, qui vient de l'Université de Carthage, donc de Tunis. Rabah est non seulement romancière, écrivain, chercheur en littérature française, mais elle est également un acteur dans la société civile, un acteur très actif, porteuse d'une parole de femme libérée. Et donc elle nous parlera aussi de l'émergence de ce sujet à travers le roman tunisien.
Merci Doria. Je vais commencer par une affirmation, comme l'ont fait beaucoup de collègues déjà. L'éclatement de la révolution tunisienne était tout à fait inattendu. Seulement la déliquescence du pays était tout à fait visible, beaucoup de gens l'ont vu, les signes de cette dégradation devenir chaque jour un peu plus prégnants. Il était évident qu'une telle situation ne pouvait conduire que vers l'éclatement d'une colère populaire devenue irrépressible. Tout le monde le savait, mais personne n'en soupçonnait l'imminence. Déjà en 2008, la région du bassin minier en Tunisie, c'est-à-dire la région du sud-ouest, s'était soulevée. La répression a été sans merci et la couverture médiatique nationale et internationale a été, pour ainsi dire, inexistante. Une région tout entière s'est sentie mortifiée et humiliée et à partir de là, elle a utilisé et pris à son compte un mot qui s'est développé beaucoup en Algérie, c'est le terme de Hogra, prononcé avec l'accent rural, pas Hogra, comme dit déjà, à force de le dire, de le prononcer comme ça, le hogra, c'est devenu un mot qui signifie le mépris, qui signifie le laisser pour compte, et ce mot est rentré vraiment dans le vocabulaire de la révolution, il a été emprunté à l'Algérie. La colère s'est progressivement répandue dans toute la Tunisie. Elle a fini par atteindre le centre, l'ensemble du pays, et l'immolation par le feu du marchand Bouazizi a suffi pour que la région des hérités tout entière s'insurge. Le phénomène de Bouazizi, évidemment, pour moi, peu importe que Bouazizi soit, comme on a fini par le dire, être tout simplement un délinquant, ça n'a strictement aucune importance. La Tunisie a construit sa propre narration et je crois que la narration dans l'histoire d'une révolution est quelque chose de fondamental. En moins d'un mois, la peur et l'autocensure que nous percevions nous-mêmes comme des atavismes consubstantiels à notre personnalité de Tunisien a brusquement disparu. Une espèce de fierté, de sentiment de fierté s'est emparé des Tunisiens et on raconte même des blagues, on dit qu'un Tunisien, quand il s'est présenté après la révolution à des gens qu'il ne connaissait pas, ne disait plus son nom, mais je suis Tunisien. Et ça suffisait pour lui pour que ça ait un sens. La Tunisie a-t-elle changé pour autant? Je ne le crois pas. Le changement radical dont on peut réellement parler, qui est un véritable acquis, c'est sans doute le fait que la parole se soit libérée, ainsi que la peur. Depuis la Révolution, toute la Tunisie parle sans arrêt, débat, énonce des points de vue, discute, se dispute. La logorrhée nationale s'est développée à un point tel qu'on en est nous-mêmes fatigués et qu'avec ça, il y a eu un certain nombre de levées de tabou. Par exemple, je crois que c'est important, je le dis en tant que femme, aujourd'hui par exemple, une jeune fille qui a été violée par 3 agents de police en Tunisie, qui a été condamnée, à qui on a fait porter la responsabilité, parce que c'est toujours les femmes, comme vous le savez, qui sont responsables de ce qui arrive, elle est violée, mais c'est elle qui est violée parce qu'elle était dans une attitude, dit-on, indécente. Et cette fille a eu le courage d'écrire un livre. Et c'est la première fois de l'histoire de la Tunisie et je crois du monde arabe qu'une personne se met de parler de cette façon, maintenant à visage ouvert, au début elle se cachait parce qu'elle avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Elle a donc un livre et ce livre est paru. Il s'intitule « Coupable d'avoir été violée ». Ce livre est paru aux éditions Lafond en 2013 et l'auteur s'appelle Maryam Ben Mohamed, Myriam Ben Mohamed. La liberté d'expression et la situation dans laquelle elle s'est développée ont permis l'épanouissement aussi d'une expression artistique et littéraire peu tolérée sous Ben Ali. Un lexique nouveau s'est imposé dans le contexte révolutionnaire. Il puise ses mots non pas seulement dans l'arabe, dans les langues en usage dans le pays, c'est-à-dire l'arabe littéraire, l'arabe dialectal et le français, mais aussi en anglais comme en italien. Ce sont ces mots qui sont utilisés le plus par les internautes, parce que ma communication portera beaucoup plus sur les apports de la jeunesse et du Facebook, qui a été un des facteurs de communication avant la Révolution et après la Révolution, alors que la littérature, il n'y a pas eu, à proprement parler, de développement littéraire pendant la Révolution, en ce sens que, de toute façon, il faut le recul nécessaire pour écrire une véritable œuvre littéraire. D'ailleurs, pendant les Révolutions, on n'a jamais vu une production littéraire extrêmement importante. Ce sont en général des pamphlets, ce sont en général de la polémique. Chez nous, alors la polémique, ça marche. Donc, une expression nouvelle faite de jeux de mots, souvent ironique et très insolente, a donné naissance à une production artistique originale et inattendue. Cette production était l'affirmation d'un ancrage dans une tradition constitutive de la personnalité tunisienne que l'allègement de la censure a révélée et que la montée des islamistes au pouvoir a affermie. Autrement dit, je pose la question, la révolution a-t-elle permis l'émergence d'une nouvelle expression littéraire et artistique ou a-t-elle seulement fonctionné comme le révélateur de la profonde mutation qui s'est opérée dans le pays depuis l'indépendance? Le premier point que je verrai, c'est donc, est-ce que la révolution a eu un véritable impact sur cette production littéraire et artistique? La production littéraire ne semble pas avoir été directement atteinte par la révolution. L'accélération du temps provoquée par la fulgurante évolution de la société politique et les innombrables événements qui viennent chaque jour en modifier le cours ne laissent pas aux écrivains le loisir de réfléchir et de prendre la distance qu'impose l'écriture. Des romans ont été pourtant publiés en 2012 et 2013. Des poèmes engagés sont édités régulièrement par la presse, par les quotidiens. Des pièces de théâtre sont produites en surnombre, mais cette production littéraire, qui s'inscrit dans la modernité et qui est entrée à très grande enjambée dans la littérature occidentale, parce qu'elle lui a emprunté ses innovations, ses réflexions sur le langage et sur les genres littéraires, s'intéresse assez peu, finalement, à la Révolution. La production littéraire ne porte pas les stigmates de la Révolution, mais elle en a, comme on dit beaucoup de nos collègues, elle en a perçu l'éclatement. C'est un pays corrompu où sévit une jeunesse désabusée, dominée par un pouvoir du chef, ou celle du père, de l'instituteur, du policier, et protégée, il faut le signaler, par la toute présence maternelle. Parce que dans les sociétés arabes, le personnage de la mère est très important, et surtout par rapport aux hommes, il ne faut pas l'oublier. Tout cela nous est donné à voir dans les romans, et en particulier dans les romans écrits par des auteurs femmes. C'est une société tiraillée entre l'aspiration à la modernité et la crainte de se perdre dans cette modernité qui structure les romans, la poésie, mais aussi le théâtre. La littérature a dit ce qu'elle avait à dire sur la Révolution avant même l'éclatement de la Révolution. Elle en a dit presque de façon prémonitoire, sans même que les auteurs le fassent dans l'intention, évidemment, d'annoncer quelque chose. Dans la pièce, par exemple, Yahya Yarish Amnistia, que Fadel Shaibi et Jenny Labaka ont produit en 2009, on voit vraiment, on a l'impression d'avoir assisté avant l'heure à la chute de Ben Ali. C'est la corruption qui est décrite du pays sous la dictature, c'est la dégradation morale, intellectuelle, culturelle et la chute fulgurante de tout un régime et des gens qui se sont acharnés à détruire leur pays. La Tunisie, nous disent les romanciers, les poètes, les dramaturges, n'appartient plus à un monde où un être n'a d'existence que par et pour le groupe. Si le monde s'uniformise en raison du développement technologique et du mouvement des peuples et des civilisations, il donne toute sa place à l'individu. Dans un pays comme la Tunisie, L'expression de l'individualité s'exprime soit dans la quête de l'amour, soit dans la création artistique, soit dans l'immigration et le suicide. Ça semble bizarre, mais c'est vrai que nous avons ces deux tendances. La véritable innovation ne se situe donc pas dans la production littéraire, mais dans la création d'un nouveau langage inventé par les internautes, les rappeurs, les caricaturistes et les jeunes écrivains, et diffusé par les réseaux sociaux, moyens de communication qui a joué un rôle capital dans la Tunisie pré-révolutionnaire. Le 7 novembre 2010, par exemple, jour de la 23e commémoration du fameux coup d'État de Ben Ali, un rappeur, vous connaissez les mots de rappeurs, ils sont toujours un peu bizarres, général, met en ligne un clip dans lequel il s'adresse à visage ouvert au président Ben Ali. Voilà ce qu'il lui dit. La moitié du peuple vit dans l'humiliation et a goûté à la misère. Monsieur le président, ton peuple est mort. Beaucoup de gens ont mangé dans les poubelles. Je parle au nom du peuple qui est oppressé et écrasé sous vos talons. Ainsi, quelques mois avant la révolution, sur les réseaux sociaux, la parole s'affranchit avant la contre-révolution. Les internautes semblent ne plus craindre le pouvoir, pourtant féroce de Ben Ali. Des campagnes se développent, dont Saïd Salah. Saïd Salah, c'est une expression très familière en Tunisie qui signifie de façon très familière en français lâche-moi les baskets. Voilà, à peu près, je crois que c'est. Elle a été menée en mai 2010. Et par des internautes appelés à mettre fin aux agissements de Ben Ali et à la censure que les Tunisiens appellent Amal 404. Alors le 404, c'est la page qui s'affiche quand c'est censuré. Et le mot Amal, évidemment, ça revient aussi à une vieille tradition d'un personnage qui circulait dans les années 1930, avec Suir, un quartier très populaire de Tunisie, qui était à mi-chemin entre le fou et dans le monde arabe, les fous ont un statut de derviche et donc d'être capable d'être considérés comme des gens n'ayant pas commis le mal, donc ils sont acceptés par la société. Donc voilà que se développe Saïd Salah avec le Amal 404 qui demande, mais ça a été un mouvement assez fort, hein, qui demande le départ donc de Ben Ali, la levée de la censure. Dès lors, le moindre événement, le moindre fait divers, le moindre passe-droit, les erreurs de langage, les lapsus ou même les fautes de langage qui sont commis par les ministres et les députés de l'Assemblée constituante sont relayés par les internautes. Au point, on m'a raconté Kmar hier que le chef du gouvernement, Hamad Ishbeli, qui a fait une énorme faute de français, semble-t-il, à la télévision, est en train de prendre des cours de français. Voilà. Cette production artistique ne parvient pas à suivre le rythme fulgurant des événements. Elle n'arrive pas, donc elle fonctionne aussi comme un observatoire des libertés individuelles. L'éclatement de la révolution et la montée des islamistes au pouvoir diviseront les internautes. Alors, dans un travail qu'a fait une réalisatrice, Hind Mettel, pour la chaîne Arte de télévision, elle explique les raisons de la division qui s'est constituée entre les groupes de rappeurs. Elle écrit « Le rap tunisien est très frontal. Dans un pays où les islamistes ont été écrasés, torturés et exilés, et là ça nous remet avec ce que nous disions tout à l'heure, avant la révolution, le rap tunisien post-révolutionnaire comprend tout autant de rappeurs laïcs que de rappeurs influencés par l'idéologie islamiste. Et si ces rappeurs religieux montent en puissance, c'est sans doute parce que les islamistes tunisiens ont été persécutés. Le général prendra justement le parti des islamistes. Et comme beaucoup d'autres prendront, eux, le parti des laïcs. Par exemple, Wilderkins ou Clé Kebiji, etc. Vous connaissez les noms que se donnent les rappeurs. Ils se feront eux, par contre, les défenseurs d'un modèle de société dit moderniste. Et il faut dire que l'ici des sévices infligés aux islamistes par le régime Ben Ali ont suscité chez certains rappeurs un élan vers le courant religieux. L'exercice du pouvoir par Nada, le parti islamiste au pouvoir, a provoqué un désenchantement, comme un certain témoigne, comme en témoigne le chant d'un jeune rappeur, filmé toujours par Andy Medem. Eux, ils sont, je cite, eux, ils sont au top, et toi, tu te balades en bas, né hors la loi. Ça reste entre nous, ça vient de chez nous. La vie nous donne encore des coups. Où est la parole de vérité? Où est la voix du peuple? Les artistes, les rappeurs, les caricaturistes, mais aussi les jeunes écrivains, se présentent comme les défenseurs des libertés, le droit, et du droit d'aimer, et du droit de s'exprimer. Alors que les politiques, même d'extrême gauche, ont banni, par exemple, le terme de laïcité de leur discours, et qu'ils déclarent leur attachement à l'identité arabo-musulmane comme s'ils craignaient de froisser le sentiment religieux d'un hypothétique électorat. Les internautes, les rappeurs, les caricaturistes se disent partisans d'une liberté de conscience. Deux caricaturistes, par exemple, en Tunisie, et là aussi c'est un fait exceptionnel dans le monde arabe, ont fait un dessin du prophète, et dans ce dessin du prophète, ils l'ont mis simplement sur une page Facebook, une caricature du prophète, et ils ont été tous les deux condamnés à. L'un a pu fuir, il s'est exilé en France, et l'autre a été condamné à 7 ans de prison. Le rôle joué par le net dans une période post-révolutionnaire et révolutionnaire n'est plus à démontrer. Il faut peut-être ajouter que s'il a été et est encore un espace de contestation politique et d'affirmation de la liberté et de soi, il a offert aux jeunes aussi un espace de rencontre dont ils sont privés. Filles et garçons échangent des messages, des vidéos, des réflexions, des commentaires, mais aussi des poèmes et des nouvelles qu'ils n'ont pas la possibilité de faire paraître par des éditeurs. Des pages Facebook privées sont ouvertes aux jeunes écrivains, comme par exemple le Reading Corner, et ils prennent le nom en anglais. Les textes que j'ai eu l'occasion de lire sur ces pages ne sont pas malheureusement ouverts au public, ce sont des pages privées dont je ne peux pas citer et je ne peux pas en parler, mais il y a toute une littérature qui est en train de se développer par les jeunes, entre eux, et si elle reste fermée, c'est parce qu'ils y disent des choses absolument étonnantes par rapport à leurs désirs, que ce soit des filles ou des garçons, par rapport à leur corps, par rapport à leur position politique ou par rapport à la société, donc il y a toute une littérature qui est en train de se faire. Alors, elle s'écrit en arabe, en français et en anglais, quelquefois en italien. Bon, je ne vais pas faire plus de développement que ça sur ce qui concerne cette littérature qui est en train de se faire et qui montre quand même une production, non pas littéraire, mais l'annonce d'une production littéraire qui est en train de se faire par les jeunes. Bien, donc la révolution, me semble-t-il, a agi donc comme un révélateur d'un changement structurel qui s'est opéré depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Pourquoi je dis depuis l'indépendance? Parce que la Tunisie est aujourd'hui dans des contradictions. Et ces contradictions ne datent pas de l'époque de Ben Ali. Elles datent bel et bien de l'époque de Bourguiba. Voilà pourquoi. Parce que la Tunisie a voulu faire un projet moderniste. Et ce projet moderniste est resté à mi-chemin. Il n'a pas été accompli. Et comme toute chose inaccomplie, un beau jour, c'est l'autre facette qui peut émerger. La Tunisie s'est voulue moderne. Elle a pour cela osé rejeter un nombre important de lois charaïques. Je parle de la période Bourguiba. Elle a scolarisé filles et garçons. Elle a émancipé les femmes. Elle a hérité de la colonisation de l'administration organisée. Elle a construit un État, mais aussi une nation avec des symboles qui la représentent, comme le drapeau, comme l'hymne national, etc. Elle a détruit le système tribal, elle a donné naissance à la famille, à l'individualisme. La réussite sociale a également fonctionné comme un ascenseur social, comme dans tout le monde arabe. L'avancée de la Tunisie dans la modernité est restée cependant inaccomplie. Le droit positif tunisien, et notamment le code du statut personnel dont on parle tant, maintient le droit musulman comme une partie non négligeable en ce qui concerne les sources. L'enseignement n'est ni laïque ni religieux. La tribu a disparu, mais l'esprit tribal est toujours là. Les femmes sont libérées, mais elles sont considérées par la société comme des êtres inférieurs. On prêche l'arabisation, mais on enseigne les matières scientifiques en français. L'attachement viscéral à l'islam, la survivance de l'esprit tribal, etc., la misogynie sont autant de signes qui révèlent que la Tunisie est restée comme suspendue entre modernité et conservatisme depuis l'époque d'Oud Bourguiba, parce qu'il faut qu'on arrête ce mythe. Cette dualité s'est accentuée avec la montée des islamistes et la diffusion sur les chaînes satellitaires arabes d'un discours radical dénué de principes spirituels ou moraux, mais simple, car il indique par des rites à suivre, des formules, etc., la possibilité d'accéder au paradis. Ce discours a eu une incontestable influence sur les Tunisiens, mais il n'a pas en profondeur un autre aspect d'eux-mêmes, leur personnalité tunisienne. Et j'en viens là à la partie que je vais résumer assez rapidement, puisque Touria me dit que... Bien, ce que je veux dire que le vrai choc des Tunisiens et l'inattendu ne se situe absolument pas seulement dans l'éclatement de la révolution, mais dans la soudaine apparition des islamistes. Je crois qu'il faut le dire. On ne s'attendait absolument pas, je le dis et je le redirai, personne en Tunisie ne s'attendait, même pas les islamistes eux-mêmes, à ce que le départ du Ranouchi, par exemple, de Rachid Ranouchi, qui était en exil en Angleterre, où il est resté 20 ans, il rentre, il a bien préparé son retour, quand il est arrivé, ça a été le branle-bas de combat. Les drapeaux noirs, jamais vus en Tunisie, jamais. On a vu les drapeaux noirs, on a vu toutes sortes de choses absolument incroyables. Par exemple, il est arrivé exactement, on a chanté pour lui le chant qu'on a chanté pour le prophète. Voilà, Amédine. Donc, il s'est produit quelque chose. Et la contradiction, ce qui est arrivé en Tunisie, et qui est précisément, à mon avis, bien entendu, c'est ce choc entre une personnalité tunisienne construite par une histoire, par l'histoire bourguibienne justement, qui a fait des Tunisiens, non pas la revendication identitaire arabo-musulmane, tous les Tunisiens savent depuis toujours qu'ils sont arabes et musulmans, même s'ils ne sont pas arabes d'ailleurs, et il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'ils sont tunisiens, et Bourguiba a tout fait pour que les Tunisiens soient tunisiens, et on se sent tunisien. On se sent tunisien avant de se sentir arabe. Et avant de se sentir maghrébin, on se sent tunisien et on a l'impression, nous autres tunisiens, que nous avons une vraie nation avec de vrais repères, avec de vraies références et elles existent en nous. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les manifestations, y compris les filles voilées. Elles sont voilées dans le drapeau tunisien. Ça colle au corps. Il y a même des entreprises qui ont fabriqué des robes avec le drapeau tunisien. Tous les manifestants ont des bandeaux avec les drapeaux, des robes avec les drapeaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même d'extraordinaire dans ce pays, c'est cette proximité qu'il y a, cette manière dont les Tunisiens ont assumé cette personnalité qui n'est pas leur identité, parce que je continue à dire que la revendication n'est pas identitaire, c'est une revendication de « j'ai une personnalité dans cette identité, j'ai quelque chose de spécifique ». Et là, voilà pourquoi je veux dire que le discours aujourd'hui islamiste, si tu m'autorises, deux minutes. Voilà, le discours islamiste me semble irrecevable en Tunisie. Il est irrecevable. Pourquoi il est irrecevable? Parce qu'il est en contradiction totale avec l'évolution de la société tunisienne. La société tunisienne est allée vers l'individualisme, vers une cible. Or, que nous proposent les islamistes? Ils nous proposent une théorie globale qui est face à l'individu. Il n'existe pas. Nous appartenons à un groupe. Nous revenons à des êtres qui sont guidés par Dieu. Nous n'avions strictement rien comme autonomie, ils ne le comprennent pas. Le discours de Rachid Al-Hanouchi lors de son arrivée d'exil, et plus encore celui de Hamadi Jbeli au lendemain du scrutin du 23 octobre, qui annonçait l'événement du 6e califat dans un pays qui avait une république derrière lui, je ne sais pas combien de temps, prêché moins par le conservatisme, qui ne déplaît pas aux Tunisiens, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont voté pour eux, mais il casse la notion et la représentation de l'espace et du temps. Et c'est là, je crois, où la contradiction est énorme. La notion d'homme islamique dont on nous parle, à mon avis, ne correspond strictement pas à la notion, à la personnalité des Tunisiens. Je dirais en conclusion, tu vois, en Tunisie, deux discours diamétralement opposés se sont développés parallèlement depuis l'éclatement de la Révolution, de leur brutale rencontre et une expression artistique et littéraire qui dévoile un changement structurel de la société, c'est-à-dire la naissance de l'individu, un individu en mesure d'assumer son histoire plurielle, sa culture et sa modernité, y compris la colonisation. Les islamistes n'ont pas compris cette évidence historique. En cela, ils font un contresens de la révolution qui réclamait pain, liberté, dignité citoyenne. Trois revendications qui constituent le fondement même de la citoyenneté et de l'individualisme. En cette fin d'année 2010, le Tunisien ne crevait pas de faim, ce n'est pas vrai. Il n'était pas en haillons. Il était pauvre, très pauvre parfois, mais aussi et surtout infantilisé, assisté, dominé par la figure d'un chef. La révolution lui a permis, dans un mouvement d'exaltation collectif, d'exprimer son rejet de la tutelle permanente. C'est, il ne faut pas l'oublier, un geste de révolte singulier, le suicide en l'occurrence, qui a été l'étincelle de cette révolution. Les islamistes n'ont pas compris la misère des jeunes, leur dépendance, leur inhibition sexuelle, leur frustration. Ils leur ont offert ce dont ils ne veulent pas, les idéologies, les interdits, la tristesse. Ils les muselent alors qu'ils veulent parler. Ils leur ordonnent de cacher leur corps alors qu'ils veulent le dévoiler. Ils veulent effacer leurs désirs, leur curiosité, leur rencontre avec l'autre. Les jeunes insurgés n'ont pas voulu accepter cette société castratrice. Ils veulent se prendre en main le pain, s'exprimer la liberté, être citoyen et respecter à ce titre la liberté citoyenne. Imputer tous nos malheurs à la condition matérielle me semble parfaitement insuffisant. Nous entrons dans un nouveau moment de notre histoire où l'individu tente de se libérer du groupe pour se réaliser, parfois dans la révolte, parfois dans l'amour, parfois dans l'expression artistique et littéraire. C'est pourquoi il défend avec rigueur cette étonnante liberté d'expression. Je vous remercie, excusez-moi.